Clore cette journée. On vous avait sollicité très opportunément, hein, puisque vous assurez cette présidence de Mobilis et on savait qu'on aurait des facilités à vous solliciter, mais c'est bien pour le travail d'auteur que vous menez qu'on vous a sollicité. Vous avez eu des échanges avec le président de la FIL pour parler de cela et on est très heureux de pouvoir vous écouter ce soir. Et je vous laisse la parole.
Très bien, merci. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation que vous m'avez adressée et dont je dois avouer, enfin vous le savez, que je ne l'ai acceptée qu'après quelques hésitations et avec un certain nombre de réticences, dans la mesure où depuis un an et demi maintenant que Mobilis existe, et donc un an et demi après avoir été élu à la présidence de Mobilis, j'ai encore le sentiment d'avoir beaucoup à apprendre et d'être juste en train de commencer à comprendre. Je parle en mon nom, mais je crois aussi au nom de toute l'équipe qui était présente aujourd'hui. Mobilis est une structure toute jeune parmi les aînés auxquels vous appartenez, parmi les aînés que vous représentez. Et donc, du coup, je me retrouve, et c'était la raison de mes hésitations, ça reste la raison de ma relative inquiétude, disons. J'ai l'impression de me retrouver dans la situation d'un amateur qui parle devant des professionnels, donc, dont il sollicite, comme on le fait souvent avant de prendre la parole, l'indulgence. Ce qui m'a un peu décidé, c'est qu'on m'a donné un sujet à traiter. Donc, en tant que professeur d'université, c'est quelque chose que j'impose à mes étudiants et donc devant quoi je n'ai pas voulu me dérober. Le sujet qui m'a été communiqué et qui figure sur le programme est le suivant. Il s'agit du regard sur l'interprofession par celui par qui tout arrive. Alors j'imagine que celui par qui tout arrive, c'est sinon moi, du moins l'auteur en général. Et donc ce que je me propose de faire dans les minutes qui viennent, c'est d'essayer de réagir devant vous et avec vous à cet intitulé donc, qui m'a été proposé, et de me demander notamment si l'auteur est bien, je cite, donc celui par qui tout arrive. Et je vais essayer de répondre à cette question en me plaçant d'abord sur un terrain un peu général, un peu théorique, un peu littéraire, puisque je pense que c'est pour ça que vous m'avez invité également. Et puis après, j'essaierai d'aller vers des considérations un peu plus pratiques, plus directement en phase, disons, avec le propos d'aujourd'hui, et faisant d'ailleurs écho en plusieurs points, je crois, à ce propos. Enfin, je l'espère en tout cas. Donc celui par qui tout arrive. Est-ce que l'auteur se trouve bien, comme la formule le suggère, au commencement ? Donc c'est une proposition qui semble être de pur bon sens. Il faut en effet d'abord qu'il se soit trouvé quelqu'un pour écrire un texte, afin que ce texte soit ensuite publié, diffusé, vendu, lu. Simplement, et ce sera donc ma première remarque, ma première série de remarques, je crois qu'il faut toujours se méfier du bon sens, car il est souvent l'expression ou le masque de croyances qui sont si bien installées dans notre imaginaire qu'elles finissent par échapper à notre conscience claire et à passer tout à fait inaperçues. Alors, quelle croyance derrière cette proposition de bon sens ? J'emploie le mot croyance au sens presque religieux du terme. Il y a un bon auteur, bien inspiré, c'est le cas de le dire, qui a mis autrefois en tête de son livre cette phrase par laquelle tout débute et qui a presque l'allure d'une sorte d'incipit absolu. Cette phrase, c'est « au commencement était le Verbe ». Alors, aussi laïque ou incrédule que nous soyons, il me semble que nous vivons toujours un peu sur une telle mythologie qui pose la parole divine ou la parole poétique comme première et qui en fait à la fois l'origine et l'agent de toute création, une parole qui vient informer très, ou plutôt une mythologie qui vient informer très puissamment notre conception de ce que c'est que la création littéraire. Et donc vous l'avez compris, c'est cette croyance-là que je voudrais un petit peu mettre en cause en me situant un peu en porte-à-faux par rapport à l'intitulé qui m'avait été proposé. C'est cette mythologie-là qui pose donc le verbe et le verbe de l'auteur au principe de tout. elle demande en effet à être déconstruite. Je ne vais pas m'engager dans une réflexion philosophique parce que ça n'est pas le lieu et ça n'est surtout pas le moment, mais il y a quelques années, un philosophe français qui s'appelle Jacques Derrida avait eu le projet précisément de déconstruire cette mythologie qu'il qualifiait de logocentrique et dont il disait qu'elle était constitutive donc, de toute la métaphysique occidentale. Une métaphysique dont l'écriture, la littérature procède sans doute, mais qui en même temps introduit au sein du logocentrisme donc quelque chose qui vient subvertir cette croyance en la toute-puissance du verbe et y introduire quelque chose qu'il appelait de la différence. Alors je vous rassure, je ne vais pas m'engager sur un tel terrain théorique, mais je voudrais juste signaler que pour moi, donc en tant qu'auteur, puisque c'est à ce titre que vous m'interrogez, l'auteur n'est pas forcément ce créateur flottant au milieu de rien, surgi ex nihilo, tirant ses livres et se tirant lui-même par la même occasion du vide dans lequel il se situerait. Et tout ça a un rapport malgré tout avec les choses dont on a parlé aujourd'hui, parce que je crois que c'est seulement à relativiser, à questionner, à déconstruire cette mythologie de l'auteur qu'on se donne une chance de comprendre mieux ce qu'il en est précisément de l'auteur et de ses différents interlocuteurs dans le monde du livre qui nous concerne. Il y a quelque chose avant l'auteur. Avant que l'auteur arrive, on pourrait même presque dire que tout est déjà en place, au point qu'on pourrait presque le présenter en renversant la formule dont j'étais parti comme le dernier venu, le dernier arrivé. Qu'est-ce qu'il y a avant l'auteur et qui conditionne l'auteur et qui le rend possible ? D'abord, il y a la langue. Une langue qui, comme on sait, nous parle plus que nous ne la parlons. Je parle des langues, le français, l'anglais, l'italien, le japonais, l'espagnol, mais je parle de la langue en un sens un peu plus fondamental. Cette langue qui nous structure et qui nous donne les mots avec lesquels nous parlons la réalité, et d'une façon qui est parfois extraordinairement contraignante. Lors de sa première leçon au Collège de France, Barthes disait de la langue qu'elle était fasciste, parce que justement, elle nous oblige à dire et elle nous oblige à répéter. Et tout le problème de l'auteur, c'est justement de traiter avec cette langue qui s'impose à lui pour s'échapper en quelque sorte à la servitude et à la répétition qu'elle nous impose. Donc avant l'auteur, il y a la langue. Et puis bien sûr, avant l'auteur, il y a aussi la littérature elle-même. Une littérature que personne parmi nous n'invente, une littérature qui est accumulée depuis des siècles et dont le poids, bien sûr, pèse sur nous, quitte parfois à nous donner un sentiment de relative asphyxie. C'est La Bruyère déjà qui, au début des caractères, disait que tout est dit depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes et qui pensent. Si bien que l'écrivain nouveau venu se trouve en situation de répéter sans en avoir forcément conscience les choses qui ont été écrites avant lui et qu'il ne fait en quelque sorte que bégayer ou que bredouiller. Il y a un conte de Borges que vous connaissez, qui est célèbre, qui s'intitule « La bibliothèque de Babel » et qui dit de manière assez vertigineuse ce sentiment qu'éprouve tout écrivain d'errer à l'intérieur d'un labyrinthe à l'intérieur duquel tous les livres existent déjà et même ceux qu'il aurait la prétention d'ajouter sur une étagère qui est déjà saturée de textes. Dans le langage de l'université, c'est ce qu'on appelle l'intertextualité, c'est-à-dire les sources, les influences, les répétitions, le plagiat, mais aussi les réminiscences inconscientes. Donc pour l'écrivain, avant lui, il y a la langue, avant lui, il y a la littérature. Pour l'auteur, avant lui, il y a aussi, disons, le monde dans lequel l'auteur donc surgit, dans lequel il écrit, et qui se trouve doté déjà d'une consistance, et notamment d'une consistance idéologique, qui du coup va venir s'exercer sur les textes que l'auteur croit produire librement, alors qu'en réalité, toutes sortes de déterminismes d'ordre politique, social ou même économique s'exercent sur lui, donc à son insu. c'est un peu la perspective légitime dans laquelle se situe, d'inspiration plus ou moins marxiste, le discours de la sociologie en général et plus particulièrement le discours de ce qu'on appelait il y a quelques décennies la sociocritique. Donc il y a un mythe de l'auteur sui generis, un mythe de l'auteur né de nulle part, mais précisément comprendre la littérature, comprendre le geste et la place de l'auteur, c'est réaliser que ce mythe n'est précisément qu'un mythe et qu'il dissimule en réalité une situation beaucoup plus complexe à l'intérieur de laquelle c'est la langue, la littérature et la société qui parlent à travers donc, l'auteur, quelle que soit la prétention que celui-ci mette en avant d'être totalement indépendant à l'égard de ces différentes formes de causalité qui pourtant s'exercent sur lui. Si je systématisais mon propos, hein, je dirais que l'auteur n'est pas celui qui crée et pas même celui qui crée son livre, et qu'il est lui-même non la cause, mais l'effet de toute une série de causes qu'il ignore, qu'il méconnaît, dont il préfère ne rien savoir. Alors je me fais ici un peu l'avocat du diable, parce que l'opinion que je viens d'exprimer n'est pas mon opinion, tout à fait, sinon je ne serais pas écrivain, mais c'est une opinion que malgré tout j'essaye de ne jamais perdre de vue, sinon je ne serais pas vraiment un écrivain non plus. Qu'est-ce qui arrive quand l'écrivain arrive? Alors à cette question, il existe, comme vous le savez, une non-réponse qui est classique, c'est-à-dire une manière classique d'éluder cette question embarrassante à l'aide d'une réponse toute faite. On parle depuis toujours, depuis des siècles, on parle depuis les Grecs et on en parle encore aujourd'hui. Je crois même que le mot a été utilisé cet après-midi ou ce matin. On parle aujourd'hui d'inspiration pour désigner ce mécanisme étrange, incompréhensible, donc par lequel l'écrivain se trouve visité par une parole autre qu'il va venir restituer. Voilà comment tout arriverait, voilà tout commencerait en littérature. Pour le romancier, pour le poète, pour le philosophe, d'une manière plus générale, pour l'auteur lui-même. Mais là encore, je voudrais insister sur le caractère très discutable, disons, de cette vision-là des origines du geste autoral, comme on dit. Hein. On n'est jamais véritablement le contemporain des commencements. Pourquoi ? Parce qu'on ne les connaît jamais qu'après coup, une fois qu'ils ont eu lieu, et qu'il est devenu trop tard pour dire ce qu'ils furent. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont essayé de réfléchir à ce moment où ils sont devenus auteurs, à ce moment par lequel ils sont devenus auteurs, et tous, finalement, ils ont conclu, s'ils ont été honnêtes et sérieux, à l'impossibilité de remonter jusqu'à la source du geste qui les a fait écrivains. Je citerai un auteur qui est présent à mon esprit souvent, mais particulièrement en ce moment, qui est Aragon. Il y a un très beau livre d'Aragon à la fin de sa vie qui s'appelle « Je n'ai jamais appris à écrire » ou « Les Incipits » et dans lequel, s'interrogeant sur le moment où il est devenu écrivain, Aragon en vient finalement à penser que le moment même de son apprentissage de l'écriture est un moment qui en quelque sorte se perd, comme on dit, dans les brumes de sa mémoire, de telle sorte qu'il lui est impossible de remonter à la source de ce que fut son œuvre. J'ai été amené à réfléchir à tout ça il y a peu de temps, en préparant ce qui sera mon prochain livre. Les éditions Grasset m'ont demandé, il y a quelques temps, un ou deux ans, de donner un texte pour une nouvelle collection qui est publié chez eux, qui est une collection qui s'intitule 26, par référence au nombre de lettres de l'alphabet, et qui propose à des écrivains, il y a déjà eu par exemple François Bon ou Alain Fleischer, de composer une sorte d'abécédaire personnel, un peu sur le modèle donc, de celui que Barthes a composé au milieu des années 70, le Roland Barthes par Roland Barthes, où il proposait une sorte d'autoportrait à l'intérieur duquel les fragments autobiographiques qu'il avait composés, il les rangeait par ordre alphabétique pour déjouer le piège du récit et de sa linéarité. Et donc, écrivant ce livre et composant mon propre abécédaire, j'ai été amené presque naturellement à m'interroger justement sur mon rapport aux lettres, au rapport à l'alphabet. Et il y a quelque chose de tout à fait significatif, en tout cas pour les gens de ma génération et les gens plus vieux. Je ne sais pas si ça continuera longtemps comme ça, mais quand vous regardez les souvenirs d'enfance des écrivains, que ce soit Aragon, donc, que j'ai déjà évoqué, ou que ce soit par exemple Nathalie Sarraute, Vladimir Nabokov ou Walter Benjamin, tous évoquent justement l'abécédaire dans lequel ils ont découvert les lettres avec lesquelles on compose les mots, les phrases, etc. Comme s'il y avait une sorte de matrice du langage qui vient solliciter l'écrivain dès l'enfance, mais qui reste pour lui comme une sorte d'énigme à laquelle il ne peut jamais tout à fait revenir. Donc c'est ce que je raconte moi-même dans ce livre. Après bien d'autres, et butant comme tous les autres sur cette même énigme, je vous cite juste un petit extrait de l'enfance berlinoise de Walter Benjamin, du texte dans lequel Benjamin évoque justement ce qu'il appelle la boîte de lecture, et qui était cette série de cubes sur lesquels figuraient les lettres de l'alphabet et avec lesquels il a essayé autrefois d'apprendre à lire puis à écrire. Et Benjamin dit « Jamais nous ne recouvrons tout à fait ce qui a été oublié, et c'est peut-être bien ainsi. Le choc de rentrer en possession d'un passé oublié serait si destructeur que nous cesserions à l'instant de comprendre notre nostalgie. » Puis il ajoute à la fin du même texte « Je peux voir en rêve comment j'ai un jour appris à marcher, mais cela ne me sert à rien. Je sais maintenant marcher, mais je ne sais plus apprendre à marcher. » À la place de marcher, il faut entendre bien sûr lire et écrire. Je peux voir en rêve comment j'ai un jour appris à lire et à écrire, mais cela ne me sert à rien parce que maintenant je sais lire et écrire et je ne pourrai plus me remettre dans la situation de celui, enfant, qui, ne sachant pas encore lire et écrire, a dû apprendre à lire et à écrire. Voilà, j'en termine avec ces considérations un peu générales. Vous voyez, le point sur lequel j'insiste, c'est le suivant, et qui me sert de conclusion provisoire. On ne sait jamais trop ce qui arrive à quelqu'un et qui conduit ce quelqu'un à se considérer comme un écrivain. Parce qu'il y a eu avant lui tout ce quelque chose qui a rendu possible ensuite ce devenir écrivain. C'est pourquoi j'aurais plutôt tendance à définir l'auteur, donc non pas comme celui par qui tout commence, mais celui avec qui tout recommence perpétuellement. Et ce « avec » que je viens d'introduire dans mon propos signifie que l'auteur n'est jamais seul. Il est avec autrui. Et le recommencement auquel il participe se fait nécessairement en compagnie des autres. Ce qui est une manière, vous l'avez compris, d'aborder la question de ce qu'on appelle dans un autre langage donc l'interprofession. Alors, qu'en est-il de ce rapport de l'auteur et des autres? Moi, je voudrais contester, et ça va faire écho à la fois à ce que je viens de dire, bien sûr, mais aussi à ce qui a été dit ce matin, je voudrais contester l'idée que l'auteur serait le premier maillon de la fameuse chaîne du livre. D'abord, parce que, j'ai déjà dit un peu pourquoi, l'auteur n'est pas forcément le premier. Ensuite, parce qu'il n'y a pas de maillon dans la chaîne du livre. Et enfin, parce que cette chaîne n'en est pas véritablement une. Donc voilà ce que je voudrais dire maintenant. Alors, je m'aperçois que je ne suis pas très original et je m'en réjouis parce que c'est peut-être que j'ai raison du coup. Je ne suis pas très original lorsque je viens questionner cette métaphore donc, de la chaîne du livre. Donc c'est une expression consacrée. Qui demande à être discuté parce que, comme toutes les expressions, nécessairement, si on croit un peu au poids des mots, et j'espère que c'est le cas ici, puisqu'on travaille tous pour que les mots aient un sens et qu'ils en conservent un, donc si on croit un petit peu aux mots, il faut faire attention aux mots qu'on utilise, aux métaphores qu'on emploie, parce que ces mots, ces métaphores, et viennent formater tous les discours que l'on tient, qu'on en ait conscience ou pas. C'est pour ça que ça m'a laissé rêveur de la métaphore visuelle qui nous a été proposée ce matin du Titanic. Parce que si c'est notre emblème, il y a un certain nombre de soucis à se faire. Je disais à mes camarades de l'équipe de Mobilis que nous, au moins, nous avions pris une certaine avance sur ce terrain-là, puisque le nom que nous avons donné à notre structure est un nom, je le précise en passant, qui vient de la fameuse devise du Nautilus telle qu'elle a été créée par Jules Verne, « Mobilis in mobile », « mobile dans l'élément mobile ». Donc nous sommes déjà à l'étape suivante, nous sommes sous la mer. Je ne sais pas d'où vient cette expression « chaîne du livre ». Est-ce que c'est... Alors je dois avouer que je n'ai peut-être pas l'esprit assez mal tourné, mais... La dimension sadomasochiste de la métaphore m'avait un peu échappé. Je pensais plutôt à la chaîne des forçats ou des galériens qui sont condamnés à ramer ensemble, ce qui nous ramène donc du côté des navires submersibles ou insubmersibles. Et puis peut-être que ça vient plus vraisemblablement de la chaîne d'assemblage des industries qui sont soumises à la taylorisation et à la division des tâches. Enfin, dans un cas comme dans l'autre, ça nous donne comme modèle de l'auteur ou de l'acteur dans le monde du livre, soit le Jean Valjean des Misérables, soit le Charlot des temps modernes, ce qui, dans un cas comme dans l'autre, n'est peut-être pas forcément très, très réjouissant. Alors, bien sûr, cette image-là, elle a le mérite, et c'est pourquoi elle n'est pas forcément à jeter, hein. Cette image-là, elle a le mérite de montrer que tous ceux qui contribuent au livre sont à la fois solidaires et indispensables au processus auquel ils participent. Si un seul maillon saute, eh bien c'est la chaîne elle-même qui perd toute sa raison d'être. Mais elle a aussi un inconvénient dont j'ai été heureux d'entendre qu'il était souligné tout à l'heure, c'est de présenter donc ces différents maillons comme s'ils étaient distincts les uns des autres. Chaque maillon forme une sorte de petit cercle de métal, et surtout, ça me semble être l'objection essentielle, ces maillons, ils apparaissent du coup comme inscrits à une place immuable où chaque maillon ne communique qu'avec celui qui le précède et avec celui qui le suit. Or, il n'en va pas ainsi, il ne doit pas en aller ainsi dans la réalité. Et donc cette métaphore-là, elle me semble douteuse, notamment par la place qu'elle assigne à l'auteur, premier maillon, dans une chaîne qui, en réalité, n'existe pas, ou du moins pas en tant que chaîne. D'où la nécessité, je pense, pour penser la place de l'auteur et d'une manière plus générale, les relations donc, que l'auteur entretient avec les autres acteurs du livre dans le cadre de l'interprofession. Il me semble indispensable de procéder à ce qu'on pourrait appeler, si on était scientifique, mais ça n'est pas mon cas, ou philosophe, un changement de paradigme, et que j'appellerais plutôt, pour ma part, un changement ou un troc de métaphore. Alors, j'avais été amené à réfléchir un peu sur tout cela, justement au moment de la création de Mobilis, puisqu'on m'avait demandé d'écrire un texte qui présenterait un peu, ma philosophie, entre guillemets, de l'entreprise dans laquelle nous étions tous engagés. Et la difficulté à laquelle je me suis trouvé confronté, enfin l'une des difficultés auxquelles je me suis trouvé confronté lorsque j'ai rédigé ce texte, c'était d'essayer de situer la région Pays de la Loire sur la carte du territoire, telle qu'elle nous a été distribuée ce matin, dans la mesure où, comme vous le savez sans doute, les Pays de la Loire n'existent pas. C'est une pure fiction administrative sans aucun contenu identitaire et notamment sur le terrain littéraire. Ce qui pour moi ne pose pas problème parce que je suis à titre personnel, et c'est ce que je disais dans ce texte aussi, très méfiant à l'égard de l'idée d'identité, qu'elle soit individuelle ou collective. Donc comment essayer malgré tout de donner un petit peu de consistance à cette région qui n'en a pas ? Eh bien, dans ce texte donc, auquel je me permets de me référer, et qui donc figure dans la brochure de Mobilis que vous avez peut-être eu entre les mains, j'essayais justement de substituer une métaphore à une autre, et la métaphore que je proposais de substituer à celle de la chaîne du livre, c'était une métaphore locale pour nous Ligériens, c'était une métaphore qui renvoie donc au fleuve qui donne son nom à notre région. Et donc je me permets de me citer, voilà ce que j'écrivais. Puisque c'est un fleuve qui donne son nom à notre région, je suggère d'user d'une autre métaphore que celle de la chaîne, et de parler de cours pour évoquer ce long mouvement par lequel s'écoulent les mots dont les livres sont faits. Comme celle de la Loire, nul ne sait vraiment où se situent ses sources, plurielles et dérobées, éparpillées et secrètes, invisibles dans la profondeur d'où elles sourdent. Puis, quand elles surgissent au grand jour, les eaux vives du livre déploient leur cours, creusent leur lit sinueux avec une nonchalante puissance, une lente mais irrésistible énergie, irriguent la terre alentour, faisant se développer sur les rives toute la somme du commerce des hommes. Enfin, passé l'estuaire, elles se mêlent à l'océan, où personne ne peut plus dire quel courant les portera peut-être vers des continents nouveaux. Alors, pour dire les choses de manière moins littéraire que je ne l'avais fait dans ce texte écrit, il me semble que cette métaphore-là, qui vaut ce qui vaut, qui vaut ce qu'elle vaut, et qui peut-être n'a pas ce qu'il faut pour se substituer à la précédente, hein, cette métaphore-là, elle a au moins le mérite de présenter le monde du livre comme un espace, un espace fluvial en l'occurrence, hein, que peuvent se partager aussi bien les baigneurs et les pêcheurs à la ligne du dimanche, que les navires de la navigation fluviale marchande ou de plaisance, un cours donc qui fait aussi tourner les centrales hydroélectriques qui irriguent les cultures, dont on peut bien sûr descendre le cours, mais dont on peut également remonter le cours. Autrement dit, c'est un espace hétérogène, multiple, contradictoire, diversifié, et qui échappe peut-être à cette linéarité que porte en elle la métaphore de la chaîne du livre, d'autant plus que tout ça participe à un grand cycle qui est voué à toujours recommencer, hein, puisque commencer, l'eau qui se jette dans les océans sous l'effet de l'évaporation revient sur Terre pour alimenter les sources même dont elle naît. C'est pourquoi la métaphore du fleuve me paraît meilleure que celle de la chaîne, mais malgré tout, elle est bien sûr imparfaite parce qu'elle repose encore sur l'idée, malgré tout, d'un sens à suivre, d'une succession naturelle entre des étapes, des activités. Alors que, mais quelle métaphore trouver, hein, je n'ai pas de proposition vraiment à vous faire. Alors que la métaphore dont nous devrions faire usage, c'est une métaphore qui, me semble-t-il, devrait montrer que l'espace dans lequel nous évoluons, donc auteur, libraire, éditeur, etc., c'est en fait un espace à plusieurs dimensions qui est parcourable dans toutes les directions à la fois et où chacun, et notamment l'auteur, occupe simultanément et successivement plusieurs, voire toutes les positions à la fois. Et d'après mon expérience, dont je fais un petit peu état malgré tout, c'est particulièrement le cas de l'auteur qui est d'abord, on l'a dit, mais c'est quand même essentiel, qui est d'abord un lecteur, qui a été un lecteur avant d'être un auteur, et qui, dans la situation d'aujourd'hui, ne peut se désintéresser du destin du livre à toutes ses étapes et sous toutes ses formes. Un auteur, c'est quelqu'un à qui rien de ce qui concerne le livre ne doit être étranger. Bien sûr, il l'écrit, il le produit, mais aussi il doit l'accompagner et d'une certaine manière le faire vivre. Il est donc, enfin comme vous le savez, c'est pas la peine que je développe ce point, mais l'auteur a de plus en plus tendance à être présent partout, à toutes les étapes du côté donc de tous les maillons de cette trop fameuse chaîne du livre, du côté de l'éditeur, du côté des libraires, animateurs culturels, diffuseurs de sa propre œuvre, parfois VRP de lui-même. Enfin, il y a un aspect un peu grotesque aussi, bien sûr, de tout ça, mais qui dit bien cette multipolarité de la fonction auteur qui n'a rien à voir avec le statut un peu sacro-saint qu'on lui attribue dans cette mythologie que j'ai évoquée au début de mon propos et qui me semble devoir être très sérieusement relativisée. D'ailleurs, c'est le cas aussi des autres acteurs du livre, hein, éditeurs, libraires, critiques, médiateurs de toute nature, qui aussi, pour jouer pleinement leur rôle, doivent accepter d'en endosser plusieurs autres en plus, et qui se trouve ainsi associé à toutes sortes d'actions qui sont censées se situer à l'aval ou à l'amont, pour reprendre la métaphore du fleuve, de celles qu'ils sont supposés exercer. C'est pourquoi il me semble que si l'interprofession doit être une ambition, c'est parce que c'est déjà une réalité. Et même si cette réalité n'est pas toujours assumée comme telle. Pour reprendre une référence littéraire qui n'a rien de très sophistiqué, mais qui me semble être malgré tout assez juste, il me semble que chacun d'entre nous, et ça vaut aussi pour l'auteur, est un peu comme le maître Jacques de Molière qui, chez Harpagon, alors je ne sais pas qui est Harpagon dans ma petite fable, mais le maître Jacques de Molière qui, chez Harpagon, comme vous vous en souvenez, cumule les fonctions de cuisinier et de cocher. Voilà. Cela vaut aussi pour l'auteur. Alors je termine mon propos en essayant de réfléchir plus précisément avec vous donc sur cette fameuse place de l'auteur dans la non-chaîne du livre. Et particulièrement en relation donc avec les structures régionales du livre. Alors, en ce qui concerne Mobilis, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas par l'auteur que tout est arrivé. En l'occurrence, moi, je suis arrivé quand tout était arrivé, c'est-à-dire plutôt comme la dernière roue du carrosse, comme le dit une expression familière, hein, dans la mesure où un organisme avait été constitué qui s'appelle la CRCC dans la région Pays de la Loire et qui avait mené auprès de tous les professionnels du livre tout un travail en amont qui devait aboutir, qui a abouti à la création de Mobilis. Et c'est seulement lorsque l'Assemblée générale constitutive a été sur le point de se tenir qu'on est venu me solliciter pour savoir si j'accepterais donc de présider la structure à la création et à la conception de laquelle je n'ai eu absolument aucune part pour dire la vérité. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit oui ? Si je n'ai pas cru devoir me dérober à la proposition qui m'était faite, c'est parce que en bon maître Jacques du livre que je suis, j'avais eu de très nombreux exemples sous les yeux qui m'avaient montré et démontré qu'il était indispensable au monde du livre de s'organiser, de se développer, afin d'espérer pouvoir survivre dans la situation quand même assez critique, voire sinistre, qui est la nôtre aujourd'hui. Je précise un petit peu, hein, je dis en tant que maître Jacques du livre, bon, auteur certes, mais également professeur, hein, ayant eu des relations suffisamment proches avec mes éditeurs successifs pour avoir un peu participé à leur entreprise, hein. Depuis le temps très lointain où je me rappelle avoir aidé mon directeur de collection à mettre en place mon premier livre à une époque où la mise en page faisait encore avec des ciseaux, de la colle, des scotchs et ce qu'on appelait des placards, en tant que critique aussi et puis en tant qu'animateur culturel un peu aussi, parce que c'est précisément en région, c'est-à-dire à Nantes, que j'ai eu le sentiment qu'il était nécessaire que tous ces gens qui coexistent les uns à côté des autres et avec lesquels je me trouvais en relation, donc en tant que professeur, du côté de l'édition, du côté de la critique littéraire, du côté de l'animation littéraire, tous ces gens devaient nécessairement travailler ensemble parce que sans ça, la situation du livre serait encore plus désespérée qu'elle ne l'est parfois. Donc. Alors, si je devais vous faire une confidence, je dirais que parmi tous ces aspects de moi-même que je viens d'évoquer, le professeur, l'éditeur, le critique, l'animateur culturel, etc., c'est l'auteur en moi qui a été le moins convaincu de la nécessité de collaborer à Mobilis et qui reste à bien des égards, je dis ça et je sais que ça peut ne pas rencontrer votre assentiment, mais c'est malgré tout, donc pour dire la vérité, je pense que c'est l'auteur en moi qui a été le moins convaincu et qui reste le plus réticent à l'égard d'une structure comme celle que j'ai malgré tout accepté de présider. Je vais essayer de dire pourquoi. Je reste partagé Quant au fait de savoir ce que les auteurs, je dis ça en plus à la SGDL, donc, mais je reste malgré tout partagé quant au fait de savoir ce que les auteurs en tant qu'auteurs doivent attendre et demander du monde du livre, tel qu'il faut malgré tout à celui-ci impérativement s'organiser avec les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires, etc. Alors pourquoi ? C'est que, comme on le sait tous, et comme vous l'avez dit nombreux aujourd'hui, et c'est l'un des éléments légitimes de notre credo à tous, le livre est et il n'est pas en même temps une industrie. Et on s'y consacre par profession, mais aussi, je crois, par vocation. C'est vrai d'ailleurs pour l'éditeur, pour le libraire, pour le professeur, pour l'animateur culturel, pour le médiateur, et peut-être même d'ailleurs dans tous les milieux et pour d'autres métiers, parce qu'il est assez triste d'exercer une activité sans avoir un petit peu la vocation, et parce qu'il est vain d'avoir la vocation si on ne se donne pas les moyens de l'accomplir concrètement, c'est-à-dire professionnellement. Mais il me semble que cette opposition entre vocation et profession, elle est particulièrement forte et complexe à gérer dans le cas de l'auteur. Parce que ces deux modèles, vocation, profession, donc, sont des modèles concurrents, antagoniques, donc difficiles à ajuster l'un à l'autre, et dont pourtant aucun n'est totalement satisfaisant, si bien qu'il est nécessaire de trouver une sorte de commerce, de conversation possible entre ces deux images de l'écrivain. Il me semble que c'est le second de ces modèles, sur le modèle de la profession, qui est en train de l'emporter de plus en plus aujourd'hui, au détriment du premier modèle, sur le modèle de la vocation. Alors, bien sûr, cela a des effets positifs, et en ce sens, ce mouvement est à encourager. Ça a des effets positifs, bien sûr, pour les auteurs eux-mêmes, qui peuvent mieux défendre leurs droits, qui peuvent garantir leur rémunération, et c'est bien sûr tout à fait légitime, donc un certain nombre d'avancées qui ont eu lieu ces derniers temps, en ce sens, me semble tout à fait louable, et je pense que c'est bien que les pouvoirs publics, au niveau national ou au niveau régional, encouragent, accompagnent une telle professionnalisation, donc parce qu'elle est bénéfique pour les auteurs eux-mêmes, mais qu'elle est aussi bénéfique de manière beaucoup plus large pour le monde du livre, dont les auteurs ne peuvent d'ailleurs pas prétendre se désintéresser superbement, considérant comme s'il allait de soi qu'on publie leurs livres, même s'il ne se trouve personne pour les lire et ne s'interroge absolument pas sur les données économiques, sociales, culturelles, politiques de leur activité. C'est le modèle ancien, si vous voulez, de l'auteur dans sa tour d'ivoire, qui bien sûr est un modèle discutable en tant que tel et de plus en plus désuet et de plus en plus douteux. Mais malgré tout, il me semble qu'il faut prendre garde aussi aux effets que cette professionnalisation peut produire, qui peuvent être négatifs aussi, dans la mesure où il mettrait en avant un modèle de l'auteur qui serait en quelque sorte conforme à ce que promeut et qu'exige ce qu'il faut bien appeler l'industrie culturelle de masse et du divertissement. Je dois avouer que, aussi pédagogique qu'elle ait été et aussi convaincante qu'elle ait été, la comparaison à laquelle on a eu droit ce matin entre l'auteur et le créateur de jeux vidéo est malgré tout une comparaison qui suscite en moi un certain nombre de réticences, parce que elle pose le créateur comme devant répondre à une demande et à une demande qui correspond assez peu à l'idée, mais peut-être est-ce parce que je suis vieux jeu, l'idée que je me fais d'un auteur. C'est-à-dire une création qui est entièrement formatée pour répondre donc aux exigences de ce que j'ai appelé il y a un instant l'industrie culturelle de masse et du divertissement. Cette professionnalisation à notre niveau, à nous, qui est un niveau plus modeste, elle se traduit aussi par toute une série d'avancées qui qui encourage donc l'écrivain sur la voie de la professionnalisation. Je pense au système des bourses, au système des résidences d'écriture qui sont conditionnées à un travail d'atelier, d'animation culturelle, ce qu'on appelle les ressources annexes. Ce qui, là encore, est positif parce que cela donne à des écrivains les moyens de vivre qui autrement leur manqueraient, mais dont il me semble important de prendre garde à ce que cela ne débouche pas sur ce qu'il faut bien appeler une instrumentalisation de la littérature selon d'autres logiques que la sienne, quand ce n'est pas une inféodation de la littérature elle-même, littérature assistée, une littérature officielle qui n'aura donc plus de la littérature que l'apparence. D'où la difficulté qu'il y a à gérer cette contradiction que je pointe du doigt entre le modèle de la vocation et le modèle de la professionnalisation, le nécessaire soutien que les écrivains sont en droit d'attendre de manière à survivre dans un système économique hostile, mais en même temps, les garde-fous qu'il convient de mettre pour que cette fonction de l'auteur elle ne soit plus pensée désormais seulement en termes de congruence, de conformité, de compatibilité avec un modèle culturel de masse qui, me semble-t-il, est à bien des égards douteux, voire condamnable. Je reviens à la question de la métaphore pour terminer. Moi, je regrette qu'on ait laissé tomber la métaphore de l'écosystème. Elle me plaît bien, en fait. En plus, elle est de circonstance en cette période de COP21. Le monde du livre me semble être un écosystème, en effet, et un écosystème menacé. Donc il faut le défendre, le préserver, l'organiser, afin de le protéger contre les périls qu'il menace, et que je viens d'évoquer, la pollution de masse que constitue le développement de l'industrie de la culture et du divertissement, et puis peut-être le grand changement d'air qui s'annonce peut-être, je fais allusion ici au passage au numérique, qui est peut-être aussi radical et qui s'avérera peut-être aussi dévastateur pour les espèces menacées que le changement d'ère géologique à l'époque où disparurent les dinosaures et autres animaux de cet ordre. Les écrivains, en tout cas c'est mon sentiment, constituent certainement une espèce en péril dont il faut préserver l'environnement, mais une espèce à laquelle, si elle doit survivre autrement que sous une forme domestique ou bien naturalisée comme dans un musée, il faut aussi conserver un peu de liberté. Voilà. Alors, j'ai trop parlé et donc il est l'heure que celui par qui tout arrive vous laisse vous en aller. Voilà.
Merci. Merci à vous, Philippe Forest, pour cette intervention qui répondait bien à la sollicitation. Merci à tous qui êtes encore là et qui êtes en train de partir pour prendre votre train. Non, mais vous avez le droit de vous lever, je vous envoie le choix de partir. On voulait saluer avec le bureau le travail du président de la FIL, parce qu'il salue toujours tous les autres et on oublie toujours de le remercier lui, et c'est lui qui est chargé de remercier. Et puis vous tous, d'être venus là en attendant ces prochaines élections qu'on commentera tous à partir de la semaine prochaine, si je ne m'abuse, déjà pour le premier tour. Oh, on ne va pas mourir. Hein. Soyons optimistes.
C'est une boutade, c'est pas vocation à aller dans le micro.
En tout cas, je vous souhaite de bien rentrer chez vous. Pour ceux qui restent demain en conseil d'administration, ce sera un plaisir de poursuivre la discussion autour des enjeux de la FIL cette fois-ci. Et puis, nous avons encore des réunions en décembre pour certains d'entre vous, commission éco, non, Marion ne me dit pas ville littéraire, non, FIL éco le 14 décembre, et puis en janvier pour la lecture publique, et il faut qu'on cale notre réunion ville littéraire très vite. Non, allez, ne vous inquiétez pas, la date n'est pas calée, mais ce sera en janvier. Et voilà, peut-être l'occasion de faire un clin d'œil du coup, pour, enfin, on verra avec les directeurs Chantal, mais ça sera la dernière de Chantal chez nous demain, puisqu'elle quitte son poste à la fin de l'année. Et puis pour ceux qui le souhaitent, saluer Céline qui sera pas là non plus l'année prochaine pour relancer les rencontres et vous accueillir par mail, par téléphone et suivre vos actus toute l'année. Voilà. Très bonne soirée. Et puis bien sûr, ça se poursuit à côté. Excusez-moi, oui, j'étais en train de vous chasser, mais non, ça recommence. Derrière la porte, l'apéritif. Excusez-moi. Et c'est jusqu'à 7h moins le quart. Nous devons rendre les clés et les locaux vides pour 19h. Merci.